programme va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission du samedi, une émission proposée et présentée aujourd'hui par Anna Kubishta. C'est également une émission où nous reviendrons sur la 14e édition du Festival du film français avant de parler linguistique avec votre rubrique préférée sur la langue tchèque et puis littérature pour finir avec un des écrivains tchèques les plus remarqués de la nouvelle génération. Mais comme promis, nous commençons avec du cinéma sélectionné en avril dernier au Festival de Tribeca de New York. Est vendu dans le monde entier, le film Lasso du réalisateur français Julien Leclerc est sorti en salle le 1er décembre. Ce film intimiste sur la guerre, qui a eu beaucoup d'écho de la part du public dans le monde entier, revient sur la prise d'otage du vol Alger-Paris par les terroristes du groupe islamique armé survenu à Noël en 1994. 16 ans plus tard, le réalisateur Julien Leclerc a reconstitué l'opération conduite par les gendarmes d'élite du GIGN qui ont réussi à libérer les passagers et les membres de l'équipage. Fin novembre, Julien Leclerc a présenté Lasso à Prague dans le cadre du 14e festival du film français. Il est au micro de Magdalena Hrozenkova.
Culture sans frontières.
Julien Leclerc, bonjour.
Bonjour.
La prise d'otage du vol AG Paris, puis la libération, l'évacuation des passagers à l'aéroport de Marseille a été suivie par 21 millions je crois, de téléspectateurs. Vous étiez parmi eux ?
Exactement. J'avais 14 ans à l'époque. Et oui, j'ai vu le dénouement en direct à la télévision.
Comment vous est venue l'idée de porter cet événement à l'écran ? Et pourquoi cet événement-là et pas un autre ?
Déjà parce que ça n'avait pas été fait, donc ça c'est une bonne chose. Et après, ça part d'un livre en fait qui a été écrit par un des membres du GIGN, un des gendarmes qui est rentré dans l'avion. Et voilà, j'ai optionné le livre et je suis allé à la rencontre de ces gendarmes qui ont vécu l'événement et on a décidé d'écrire le film.
Vous, dans votre film, vous présentez l'histoire de trois points de vue différents. Donc, vous la racontez à travers trois personnages. Qui sont ces personnages ? Pourriez-vous le préciser ?
Alors, il y a le personnage de Thierry Prugnot, qui est un des leaders du GIGN, qui a été le plus grièvement blessé. Il a pris 8 balles, dont 2 à l'épaule. Et une grenade dans le dos. Il est toujours vivant, il est en retraite en province, en France. C'était intéressant par rapport à... Évidemment, il y a 30 héros qui rentrent dans l'avion, mais il fallait en suivre un essentiellement. Et de montrer un peu comment vivent ces gens. Pourquoi c'était de mettre un visage sous la cagoule. Un point de vue politique. On suit une jeune énarque qui va suivre parce que pour comprendre vraiment... En fait, l'idée de départ, c'était vraiment ces images fortes où on voit ces trois passerelles qui viennent s'amarrer avec cet avion. C'était de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 48 heures en France, en Algérie, pour lancer un assaut, pour aller libérer ces gens. Et évidemment, le troisième point de vue terroriste, pour comprendre l'adversaire. Qui a mis sous pression cet avion.
Était-il difficile de rester neutre au cours du tournage ?
C'était, même si j'ai eu l'accord du GIGN, du soutien de l'armée, c'est ce que je leur ai dit la première fois, ça sera pas une bande démo pour l'armée, ça sera pas un film promo, c'est pas... Et heureusement, c'est ce qui leur a plu, parce que il fallait être le plus juste et le plus objectif possible par rapport à l'événement et de pas prendre parti. Il n'y a même pas besoin, c'est tellement flagrant que je ne vais pas insister, moi, dans mon film, avec ma mise en scène, pour dire que les terroristes et les méchants, ça coule de source.
Mmh. Et en quelle mesure vous êtes inspiré du livre ? Vous êtes parti du livre ?
En fait, le livre, je l'ai lu qu'une seule fois. Le travail avec Simon Moutaïrou, mon co-scénariste, ça a été, comme vous, un travail de journaliste où pendant 6-8 mois, on est parti à la rencontre de tous les gens qui ont vécu l'événement en direct, que ce soit des otages, que ce soit les membres du GIGN, que ce soit le commandant de bord.
Et quel regard portait-il au moment où vous les avez rencontrés sur l'événement, était-il capable?
Parfois c'était compliqué, parfois c'était compliqué. C'était plus facile côté GIGN puisque c'est une troupe et c'est une cellule assez particulière où ils restent groupés. C'était plus compliqué avec le commandant de bord, c'était plus compliqué avec certains otages parce que c'est une expérience traumatisante, 54 heures de prise d'otages avec trois otages qui ont été tués à Alger, c'est difficile. Je leur ai expliqué le film que je voulais faire et c'est pour ça qu'ils sont tous venus. Personne ne l'a pris comme une thérapie, personne ne l'a pris. Mais ils étaient tous contents et c'était vachement poignant parce que sur le tournage, il y avait des gens qui se sont croisés quelques secondes comme ça sous un enfer de feu. Ils se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Et de se retrouver autour d'une caméra avec un acteur, avec un réalisateur, et c'était vachement, vachement touchant. Il y avait des otages qui avaient 20 ans à l'époque. Et Yasmina qui m'a beaucoup aidé, qui m'a inspiré le personnage. On l'a vraiment demandé en mariage. Enfin, elle m'a raconté tout ça, donc tout ce qui est dans le film est vrai. Et Yasmina, elle était tous les jours avec nous. Elle parlait aux acteurs, aux figurants. Et ça nous donnait à tous, moi évidemment en tant que metteur en scène et à toute l'équipe, une vraie conviction de voilà, il faut aller jusqu'au bout et il faut être le plus, faut faire le job, faut la raconter cette histoire.
Est-ce que le commandant de bord a pu reprendre son travail après ?
Je sais qu'il a revolé pendant un temps et après il est parti en retraite. Je sais que c'était assez compliqué pour
le
lui.
Le deuxième pilote ?
Ah, le deuxième, non. Après, il n'a pas retravaillé, non. Non, il y a des gens qui ont été vraiment... Il y a des stewards qui ont même pas pu jamais retravailler dans quoi que ce soit, qui ont été... c'est des vrais traumatismes. Ouais.
Avez-vous rencontré Thierry aussi?
Ah, bien sûr, Thierry, je le côtoie. On se parle une fois par mois, ouais, encore maintenant.
Et à la fin du film, vous précisez que la République française ne lui a jamais accordé son grade de major. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
On est en décembre 1994. 6 mois plus tard, c'est les élections présidentielles où il y a un changement de bord. Donc les promesses qui ont été faites à Thierry sur son lit d'hôpital, elles n'ont pas été tenues. Donc voilà, c'est ce que je trouve difficile, dommage, dur. Voilà, quand on sait ce qu'il a donné dans sa chair et il a été, il a été jusqu'au bout pour libérer ces gens, pour. Et voilà, c'était vachement. Je me sentais obligé de le mettre. Le carton final pour lui et je trouve ça normal.
Dans le film, on voit aussi sa famille, sa femme, sa petite fille. Donc c'est très touchant comment elles vivent cet événement. Vous les avez rencontrés aussi?
Oui. Moi, j'ai passé énormément de temps dans la caserne où il y a toutes ces familles, il y a tous ces enfants de gendarmes. C'était aussi important pour eux aussi, pour moi. Dans la dramaturgie du film, et c'était aussi important pour eux de se reconnaître parce que elles ont un rôle très difficile, très de soutien, et surtout la difficulté, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que à l'époque il n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas les textos, donc ils avaient une certaine tranquillité, ce qui maintenait le couple avec une distance entre, elles savaient pas vraiment la dangerosité des choses, sauf que là elles sont spectatrices comme tout le monde et elles se prennent d'une violence inouïe, les images, surtout qu'en direct à la télévision, il y a des journalistes qui ont meublé en disant n'importe quoi, en disant qu'il y avait 20 morts, en disant qu'il y avait une chapelle ardente qui avait été édifiée. Enfin voilà, donc tout d'un coup, elles se prennent pleine face la difficulté, la dangerosité du métier de leur époux. Non, c'était très dur psychologiquement pour eux.
Et pour le film, pour les besoins du tournage, vous avez acheté un avion?
Ben oui, parce que bizarrement, ça coûtait trop cher et trop compliqué d'en fabriquer un en studio. Et il y avait exactement le même avion, Airbus A330, qui était à Bordeaux, qui était prêt à être découpé en 1000 morceaux. Et du coup, je l'ai racheté et on l'a fait convoyer de Bordeaux à Paris. Et tout ça, c'est dans le making-of du film. Je pense que on peut voir ça sur Internet. Mais ouais, c'était vachement intéressant. Moi, ça m'amuse.
Vous avez filmé avec les vrais membres donc, de ce corps d'élite GIGN. Comment ça s'est passé et comment Vincent Elbaz s'est préparé au rôle de Thierry, de ce soldat qui mène en fait l'unité?
Bah, Vincent, c'est ce qui a été génial pour lui, c'est toute la partie entraînement, parce que quand on est acteur, même si c'est toujours des pistolets, des armes avec des balles à blanc, et même si c'est des balles à blanc, en fait, il y a toujours un protocole de sécurité. Sauf que là, Vincent, quand il a commencé son entraînement, le premier jour, on lui a donné une arme chargée et tiens, t'es responsable. Donc voilà, ça a donné une responsabilité. Moi, je lui ai dit, tu sais, je suis producteur aussi du film, donc si tu te tires une balle dans le pied, j'arrête le film, c'est mort pour moi. Donc, il me dit, non, t'inquiète pas, je vais faire attention. Et c'est, ça a vachement, lui, il a été super emballé parce que ça arrive peut-être qu'une fois en tant qu'acteur de suivre ces gens-là, d'être proche. Je sais qu'il est devenu ami avec quelques membres du GIGN. Il se revoit régulièrement et c'est quelque chose de... J'ai compris des choses où quand on voit arriver 30 mecs comme ça, soudés, en face, il n'y a aucune chance. Quoi. Et c'est des gens vraiment intelligents, vraiment, vraiment intelligents. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est les vrais chevaliers d'aujourd'hui, mais c'est... Même si c'est des gendarmes et que ça fait partie de l'armée, c'est pas des gens qui sont pro-militaires, ce sont des gens qui ont une vraie vision de la vie et qui se mettent au service de la vie. Et je trouve vachement noble parce que c'est pas des gens qui travaillent pour l'argent, ils ont des salaires de gendarmes, donc c'est pas des salaires très élevés comparé au risque humain qu'il peut y avoir en face. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve ça noble et je trouve ça beau de donner 10, 15, 20 ans de sa vie à cette action.
Et les acteurs qui jouent les quatre terroristes, comment vous les avez trouvés?
On a fait un gros casting, j'ai rencontré une centaine de jeunes acteurs avec un gros niveau. Et c'est vrai qu'on a fait des lectures, on a fait des répétitions. Moi j'avais un coach, puisque ces quatre jeunes terroristes venaient de la banlieue nord d'Alger, et je voulais vraiment qu'ils aient l'accent d'Algérois, d'Alger. Et c'est vrai que sur les quatre acteurs, j'ai un Algérien, deux Marocains, un Tunisien. Et ce qui est génial, c'est que voilà, ils ont bossé. Ayman Saïdi, là il est nommé, je suis content, il est nommé au César en France. Donc c'est des vrais acteurs, quoi. Ils ont vraiment donné, ils ont travaillé. Ils se sont jamais posé de questions. Et c'est pas évident parce qu'on est dans un cockpit, parce qu'on est sept, parce qu'on est en gros plan. Et il faut tout décharger ça sur très peu d'espace. Et c'est, je suis très très fier de ce qu'ils ont fait.
Claire est actuellement en préparation d'un nouveau film écrit par Abdel Raouf Dafri et basé sur une histoire vraie d'un infiltré dans le milieu des narcotrafiquants. La semaine prochaine, dans la rubrique culturelle, retrouvez le cinéaste Bertrand Bonello qui a présenté à Prague la Polonie des souvenirs de la maison close, qui est également sortie en salle le 1er décembre. Et puis, tout de suite, on enchaîne avec la rubrique consacrée à la langue tchèque, aux manettes, Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue, Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Vous vous en souvenez peut-être, dans notre dernière émission, nous avions évoqué la mauvaise qualité de l'air dont ont souffert, il y a quelques semaines de cela, un certain nombre de Tchèques. Nous nous étions donc intéressés à l'origine du mot
smog,
un néologisme provenant de l'anglais qui désigne un mélange de brouillard et de fumée dans lequel se trouvent parfois plongées certaines zones industrielles et urbaines tchèques, mais pas seulement. Pour nous remonter un peu le moral, nous nous étions ensuite offert une bonne bouffée d'air frais en nous penchant sur le mot
vzduch,
qui désigne lui l'air proprement dit. Un très joli mot créé pour les besoins de la traduction du poème Le Paradis Perdu et qui peut posséder, comme nous l'avions expliqué, une connotation à la fois spirituelle et même vitale. Pour cette fois, nous allons donc rester avec ce mot
vzduch
qui nous avait tant plu et nous pencher sur une expression très intéressante de la langue tchèque.
Stavět vzdušné zámky.
Soit littéralement construire ou bâtir des châteaux d'air ou des châteaux en l'air.
Vzdušné zámky, plné příběhů, které jako bych žil, když trochu jsem sněl, a kam jen dohlédnu, mám své vzdušné zámky,
Des châteaux d'air rampés d'histoire comme si je les vivais, même si j'ai un peu rêvé, et où que je pose mon regard, j'ai mes châteaux d'air de ton vagabond qui me rappellent que quelque part, au-delà de l'écho, mes châteaux d'air se sont soudainement envolés. Ainsi donc pour la traduction très approximative du refrain de la chanson de Michal Tuchny intitulée
« Zdushné zámky ».
Des châteaux d'air. Ce texte, même traduit donc à la va-vite, mais surtout dans un style intentionnellement très littéral, nous donne une première idée assez précise de ce que peuvent être les châteaux d'air. On y retrouve en effet des mots comme histoire,
příběhy,
rêver,
snít,
des tons vagabonds que l'on pourrait tout aussi bien qualifier de baladeurs ou errants,
toulavé tóny,
des tons qui, quelque part au loin, au-delà de l'écho, nous rappellent que nos châteaux d'air, ou nos rêves, si vous préférez, se sont envolés, dissous, dispersés, des rêves, des châteaux d'air qui sont devenus flous. Alors précisons tout de suite que c'est
Vzdušné zámky
que construisent les Tchèques équivalent aux châteaux en Espagne que bâtissent ou achètent les Français. Dans les deux cas, il s'agit d'une expression désignant quelque chose d'impossible, des plans irréalisables, des projets chimériques, utopiques. Un rêve dont on sait inconsciemment qu'il ne se réalisera sans doute jamais, le plus beau des rêves, pourrait-on ajouter, même si Pagnol a écrit « Tout le monde savait que c'était impossible, un imbécile est venu qui ne le savait pas et il l'a fait ». Enfin, là n'est pas la question. La question qui nous préoccupe est en effet plutôt de savoir pourquoi les Tchèques construisent des châteaux d'air ou en l'air et pas des châteaux en Espagne ou ailleurs, en Poldévie ou dans tout autre pays des merveilles ou imaginaires. Remarquons tout d'abord qu'il ne s'agit pas là d'une expression propre à la langue tchèque. On la retrouve également dans bien d'autres langues. À cela, une raison simple, construire des châteaux en l'air semble provenir d'une phrase en latin prononcée au 4e ou au 5e siècle par saint Augustin.
In aere edificare.
C'est-à-dire édifier, bâtir, construire en l'air. Reste maintenant à savoir pourquoi dans cette aire on y construit précisément des châteaux. En fait, il semble que l'expression « château en l'air » possède bien un rapport avec les châteaux en Espagne que l'on trouve en français, ou plus précisément découle de la locution française qui, si l'on s'en tient au dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, a été créée au Moyen-Âge au temps des chansons de gestes dans lesquelles les chevaliers recevaient en fief des châteaux en Espagne. Seulement, le gros désavantage de ces châteaux est qu'il fallait d'abord les attaquer et surtout les prendre. Or, on peut supposer que ces châteaux en question désignaient des endroits inaccessibles tant par leur défense que par leur éloignement. Et vouloir entrer dans ces lieux inaccessibles, c'était bien se lancer dans des projets irréalisables. Ainsi donc, saint Augustin parlait de construire en l'air, mais pas de château, tandis que dans les chansons de gestes, ces épopées légendaires héroïques, caractéristiques de la littérature médiévale française et mettant en scène les exploits des rois et des chevaliers, on parlait cette fois de château en Espagne, mais pas de construction en l'air. Alors, qu'en penser et d'où provient l'expression usitée par les Tchèques de construire des châteaux en l'air? Une question à laquelle il faut se contenter, et oui, de supposer que la locution construire des châteaux en l'air est une synthèse, donc, de la phrase de saint Augustin et des chansons de gestes, sans que l'on sache, puisqu'il ne s'agit que d'une supposition, quand cette synthèse s'est produite et quand la locution a commencé à être utilisée par les Tchèques. Voilà, c'est donc sur ce constat que s'achève ce Tchèque du bout de la langue, consacré donc au château que les Tchèques construisent en l'air, là où les Français les bâtissent eux en Espagne. En attendant de vous retrouver pour d'autres découvertes tout aussi intrigantes, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
L'écrivain Tomáš Zmeškal est sans doute une des personnalités les plus intéressantes de la littérature tchèque contemporaine. Václav Richter se penche dans son émission littéraire sur le premier roman de cet auteur qui a reçu récemment une importante distinction internationale.
rencontre littéraire. Parmi les lauréats du prix de littérature de l'Union européenne 2011, qui récompense les meilleurs talents européens, il y a aussi le tchèque Tomáš Zmeškal, auteur du roman « Lettres d'amour en cunéiforme ». Les prix ont été décernés le 28 novembre dernier à Bruxelles. Chacun des 12 lauréats a également reçu une somme de 5 000 euros et la promesse que son livre sera traduit dans d'autres langues. Le visage exotique de Tomáš Zmeškal trahit ses racines africaines. Fils d'une mère tchèque et d'un père congolais, ce professeur de littérature anglaise est aujourd'hui un des écrivains les plus prometteurs de langue tchèque. Sa biographie commence en 1966 à Prague. Après des études de langue et de littérature anglaise à l'université Charles de Prague, il vit et étudie quelque temps en Grande-Bretagne, travaille ensuite comme traducteur et interprète et devient finalement professeur de lycée. Il ne pense pas que la littérature puisse devenir son activité principale.
Je me suis mis à écrire à environ 18 ans. Puis j'ai écrit de la poésie, mais c'était des textes courts que je ne considérais pas comme importants. En Angleterre, j'ai étudié la littérature anglaise, mais j'avais commencé à écrire encore avant mon départ pour l'Angleterre. Et puis j'ai écrit pendant mon séjour en Angleterre et aussi après mon retour.
Ce n'est qu'en 2008, donc à l'âge de 42 ans, que Tomáš Zmeškal réussit à publier son premier roman intitulé « Milostný dopis k linovým písmem »,« Lettre d'amour en cunéiforme ». Il n'arrive qu'avec beaucoup de difficultés à surmonter la méfiance que suscite parmi les éditeurs ce texte original et insolite.
J'ai proposé ce livre aux éditeurs pendant 5 ans, mais personne n'en voulait. Maintenant, c'est déjà beaucoup mieux. Quand vous êtes inconnu, on ne vous prend pas au sérieux. Je pense que la raison principale de ce refus a été dans la composition du texte, dans sa structure. Et puis aussi, le sujet ne semblait pas attractif aux éditeurs. Ils pensaient que ce n'était pas intéressant pour les lecteurs. Et puis, la troisième raison, j'étais un inconnu. C'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs un jour. Personne ne vous connaît, le livre est épais et coûterait beaucoup d'argent. Nous n'allons pas le publier, bien que le texte nous semble finalement assez bon.
L'apparition du livre révèle au lecteur et à la critique un auteur courageux qui n'hésite pas à briser la forme classique du roman, qui ne respecte pas la chronologie des événements et raconte son histoire par les voix de plusieurs narrateurs. L'écrivain crée ainsi une structure complexe qui reflète les vies des protagonistes du roman, mais dans laquelle interviennent aussi de nombreux personnages secondaires. Il n'est pas facile pour le lecteur de s'orienter dans ce labyrinthe des vies, des événements et des personnages qui forment pourtant un ensemble, une œuvre littéraire, un roman. Il n'est pas non plus facile de le résumer. L'auteur lui-même l'a fait en ces termes.
C'est l'histoire d'une famille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 90. Nous suivons deux générations de cette famille qui vit à Prague et à la campagne en Bohême de l'Ouest. La ligne principale de cette histoire est la relation entre les époux Gvieta et Josef et leur ami Inek qui se retrouvent séparés par la barricade politique et cherchent une issue à leur situation. Inek deviendra partisan du régime totalitaire et en profitera d'une certaine façon.
Josef Černý, héros du livre, a connu sa femme Květa avant la guerre à l'université pendant les cours de professeur Bedřich Hrozný ayant déchiffré l'écriture cunéiforme des Hittites. L'histoire et les mythes des Hittites, peuple ayant vécu en Asie mineure au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, deviendront comme un leitmotiv de toute la vie amoureuse de Josef et de Květa. Inek, leur ami commun, est lui aussi amoureux de Květa, mais elle lui préfère Josef. Dans les années 1950, période de la terreur stalinienne, Josef est arrêté et emprisonné, et Inek devient collaborateur de la police communiste. Květa, restée seule avec une petite fille, s'adresse à Inek et le supplie de l'aider et de la conseiller. Et Inek finit par abuser de la vulnérabilité et de l'obéissance de la femme du prisonnier politique pour réaliser ses fantaisies sadomasochistes. Cette faute de Květa, que Josef n'arrivera pas à lui pardonner, pèsera pour toujours sur la vie des deux époux, passera à la génération suivante et se répercutera encore dans la vie de leur fille. La politique intervient pratiquement sans cesse dans la vie de cette famille. Pourtant, Tomáš Meškál se défend d'être un écrivain politique et affirme que la politique ne l'intéresse pas. Il s'intéresse par contre à tout ce qui intervient dans la vie de ses personnages.
Když se někdo zamiluje, tak je to mnohem důležitější než celá ta politika.
Quand quelqu'un tombe amoureux, c'est plus important pour lui que toute la politique du monde. Mais quant aux personnages de ce livre, il leur est arrivé que la politique soit entrée dans leur vie. Et ils sont obligés de lui faire face, de se mesurer avec elle. C'est cette façon de se mesurer avec la politique qui m'intéresse.
Le roman a apporté à son auteur beaucoup de succès et d'honneurs officiels. En 2009, il est nominé pour le prix Magnesia Litera et remporte le prix Józef Skvoretsky. En 2011, il est récompensé du prix de littérature de l'Union européenne. Désormais, Tomáš Meškál jouit aussi du respect des éditeurs qui n'ont pas hésité à publier son deuxième opus, un roman intitulé « Biographie d'un agneau blanc et noir ». L'écrivain semble avoir franchi une étape importante dans sa vie littéraire et dépasser les obstacles qui freinaient son envol.
Ce qui m'a vraiment bloqué, c'était le fait d'avoir enseigné la littérature anglaise à l'université. Et quand vous enseignez la littérature, ou quand vous êtes théoricien de la littérature, vous voyez le texte avec les yeux d'un théoricien, et vous vous censurez énormément. C'est contre cela que j'ai lutté en écrivant mon premier livre. J'ai fini par éliminer les 60 premières pages, et j'ai tout repris depuis le début. Je suis donc un théoricien de littérature à la retraite, mais cela n'est pas sans avantage, parce que quand vous êtes critiqué, vous réalisez tout de suite quel est le point de départ de votre critique. Mais franchement, pour votre travail d'écrivain, cela ne sert pratiquement à rien.
Il ne sera pas facile maintenant pour ce romancier de rester dans ses prochaines œuvres à la hauteur de son premier roman. La forme et le style de son deuxième ouvrage témoignent d'une tendance vers le récit moins expérimental, plus classique, plus linéaire. Le romancier mûrit et semble s'assagir, ses moyens changent. Quelle est donc sa méthode littéraire? Tomáš Meškál n'arrive pas à répondre à cette question. Il se borne à constater que sa façon d'écrire évolue avec le temps.
Mon premier livre qui a été primé est ce que les critiques appellent le postmodernisme. Il est influencé par le postmodernisme. Par contre, le deuxième livre est chronologique, plus traditionnel, plus classique. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est qu'elle arrive à me surprendre. Je ne sais jamais quelle sera la fin. Je ne veux pas que l'écriture ne soit pour moi qu'une routine.
Václav Richter vous a présenté le romancier tchèque Tomáš Meškál, lauréat du prix de littérature de l'Union européenne 2011. C'est avec cette rubrique que se termine cette émission du samedi. Vous le savez, dimanche, vous retrouverez votre émission musicale hebdomadaire. Tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles, en podcast également sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy.
Radio Praga continúa.